CJSO 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, mesdames, messieurs, à l'émission aujourd'hui, la survie de nos églises. Leur disparition est-elle écrite dans le ciel ou est-ce qu'il y a pour elles l'ombre d'une planche de salut? J'en discute avec Mgr Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Nicolet, l'abbé Serge Pelletier, vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe, Mgr Yves Sanson, évêque coadjuteur de l'Église chrétienne catholique traditionnelle, Yvon Bruno de la fabrique de Saint-Roch-de-Richelieu, Geoffrey Chêne Packwood de la société historique Pierre de Sorel, Lisanne Croteau, directrice générale du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, Martin Cournoyer, conseiller municipal à Sainte-Victoire-de-Sorel, et le photographe Maurice Parent. De retour, si Dieu le veut, après la pause.
Sur le rythme. CJSO.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7.
En septembre, chez Meubles André Beaulieu, préparez-vous à accueillir l'automne en mode cocooning. Profitez de 20% de rabais sur nos matelas. Et ce n'est pas tout, découvrez aussi de belles promotions sur nos meubles de salon et de cuisine, parfaits pour préparer la saison où l'on aime recevoir. Sans oublier les têtes électriques Fournirama à moitié prix sur lesquelles vous vous reposerez une fois la visite partie. Meubles André Beaulieu, votre destination confort cet automne.
La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Comment conserver nos églises, des monuments d'architecture, des pièces centrales de notre patrimoine architectural dont chaque clocher annonce au loin un village? J'en discute ce midi avec plusieurs invités. Le premier est évêque du diocèse de Nicolet, Mgr Daniel Jodoin. Bonjour, Mgr Jodoin.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Quel est le portrait dans votre diocèse, Mgr Jodoin, de la sauvegarde des églises? On a vu dans Pierre de Sorel en 2016 tomber celle de Saint-Gérard Magella, qui est dans votre diocèse. Est-ce que c'est un sort qui a été réservé à beaucoup d'entre elles au cours des dernières années?
Ben, il y a certaines églises qui ont dû être démolies pour différentes raisons, soit qui étaient mal en point complètement, alors il fallait absolument les démolir. D'autres, c'est le sol. Ici, vous savez, dans notre région, c'est de la glaise. Et il y a beaucoup d'églises, beaucoup de villages, que c'est leur troisième, quatrième église dans leur histoire, parce que avec le temps, l'église se disloquait. Alors, il fallait reconstruire. C'est sûr qu'on fait tout pour les garder, pour les conserver quand c'est possible, parce que c'est le passé qu'on veut transmettre aux générations futures et c'est une richesse incroyable.
Oui. La communauté s'était, à Saint-Gérard-Magella, estimée incapable d'assumer le coût des réparations que l'Église exigeait. Sa démolition était devenue une sorte de fatalité. Ouais. Les coûts astronomiques là, de chauffage, d'entretien, de réparation, ça finira pas par signer l'arrêt de mort de bien d'autres églises,
ça? Ça peut, si on prend pas les mesures indispensables pour éviter ce sort, parce que vous savez que si on prévoit, on peut toujours éviter la destruction, on peut l'occuper d'une autre façon, on peut aussi baisser le chauffage et durant l'hiver, les durs mois d'hiver, parce que vous savez que nos ancêtres n'étaient pas plus fous que nous, ils chauffaient pas à 20 degrés pendant tout l'hiver dans leur église, et c'était au bois. Alors, c'est pour ça qu'on avait des immenses sacristies où les célébrations avaient lieu là souvent, parce que c'était impossible de chauffer des immenses églises. Prenez Saint-Cyril de Wendover. Écoutez, cette immensité d'église-là, c'était impossible à chauffer durant les grands mois d'hiver. Donc, nos ancêtres étaient pas plus fou que nous. Il était très habile et il prenait différents moyens pour éviter la destruction, bien sûr.
Ouais, si elles étaient encore pour la peine fréquentées, nos églises, on y réaliserait de pas pires quêtes. Elles sont, je présume, les quêtes plutôt familiques, non?
Ben, ça peut arriver, oui, parce que la pratique religieuse, elle est autre présentement. Mais vous savez que l'Église, c'est pas juste la pratique religieuse du dimanche, c'est un symbole dans la municipalité. Et quand l'Église disparaît, alors à ce moment-là, ça crée un vide et la municipalité perd beaucoup. On prend des églises comme Saint-Ours qui a passé au feu, ben écoutez, c'est une catastrophe pour cette municipalité-là, qui était le symbole de cette ce village, de cette ville. Alors, c'est pour ça que même ceux qui sont pas croyants sont attachés à ce monument au centre de leur village.
Il fut un temps où même ceux et celles qui ne sont pas croyants et croyantes payaient malgré tout leur dîme. Est-ce qu'il y a encore bien du monde aujourd'hui qui s'acquitte de sa dîme?
Ben oui. Imaginez qu'il y en a qui ne croient pas, mais pour eux, ils croient dans le patrimoine, ils croient dans la beauté de cet édifice et ils veulent que ça se poursuive. Alors c'est pour ça qu'ils contribuent. Vous savez que le problème qu'on a dans nos villages, ici on a beaucoup de vieilles églises, des vieilles seigneuries, des villages très anciens avec toutes sortes de beautés architecturales et les jeunes générations se réveillent. Les gens dans la vingtaine, dans la trentaine. Et c'est maintenant eux qui viennent nous voir et qui veulent sauver les édifices.
Wow! La planche de salut des églises, c'est peut-être ces jeunes générations qui se réveillent, comme vous dites. Oui. Mais c'est quoi d'autre? Est-ce que, par exemple, les gouvernements devraient s'impliquer, la municipale, provinciale, fédérale? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben oui, c'est sûr. Écoutez, les gens vont en Europe, pourquoi? Pour voir le patrimoine religieux qui est là, artistique et tout, mais c'est pas des petits villages en France, en Italie, en Espagne qui portent tout le fardeau de réparer, d'entretenir ces édifices-là. Le gouvernement contribue énormément. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les touristes viennent pour cela. Pas juste pour cela, ils viennent aussi pour d'autres raisons, le soleil, les restaurants, les ciné, ça. Mais ils viennent aussi pour ça. Notre-Dame de Paris, c'est pas les paroissiens de Notre-Dame de Paris qui l'ont rénové. C'est le monde entier qui l'a rénové. Mais les gouvernements en Europe s'impliquent énormément dans l'entretien des édifices. Parce qu'ils savent très bien que chaque paroissien ne peut pas assumer ses coûts.
Merci beaucoup, Mgr Jodoin, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Merci. Monseigneur Daniel Jodoin est évêque de Nicolet. On se rend à l'évêché de Saint-Hyacinthe. Ses fonctions sont celles de vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe. Je me tourne vers M. l'abbé Serge Pelletier. Bonjour, M. Pelletier.
Bonjour, M. Rochon.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre tour de me dresser le portrait du patrimoine architectural religieux dans votre diocèse. On vient de voir partir en fumée l'église de Saint-Ours après l'incendie, le pic des démolisseurs a achevé de jeter par terre. Est-ce que plusieurs églises ont, comme celle de Saint-Ours, disparu du paysage diocésain, là, dans tout contexte confondu?
Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs qui ont déjà été vendus aussi. Mais ça, c'est sur plusieurs décennies là, que ça se passe. On arrive à un point critique où la masse des gens qui supportent financièrement nos églises en paroisse ne suffit plus à maintenir la plupart de nos bâtiments. Il y en a qui survivent très, très bien. Mais depuis qu'on a vendu certaines églises, ben, ça permet des plus gros rassemblements dans les églises qui nous restent. Et c'est peut-être une des planches de salut pour l'avenir.
OK.
Diminuer le parc immobilier pour sauvegarder, pour permettre des plus gros rassemblements. Et ce qui fait aussi que c'est plus intéressant pour les gens qui participent aux assemblées.
Bon, j'allais justement vous demander là, comment il était possible de contrer la disparition des églises. Est-ce qu'on peut la contrer ou est-ce en tout réalisme impossible devant ce que vous venez de citer, leur fréquentation familique et les maigres revenus par conséquent générés par la quête?
C'est ça. C'est qu'il y a deux types de clientèle quand on parle de l'enjeu de la sauvegarde du patrimoine. Les églises appartiennent d'abord aux communautés chrétiennes. Ce sont elles qui présentement ont le plus de difficultés à les maintenir. Elles sont à elles, mais à cause des baisses de revenus, baisses de fréquentation. Ensuite, alors quand le poids financier est trop grand, ben la fabrique en arrive souvent malheureusement à la conclusion que ben on peut plus, on n'a plus les moyens pour entretenir cette maison-là. Un peu comme un couple âgé qui dit ben notre maison est trop grande, on va quitter pour plus petit. Ensuite, une fois que ça c'est acquis, une fois que les communautés chrétiennes prennent la décision de s'en départir, ben là c'est l'autre groupe de personnes qui peut entrer en jeu dans pour l'acquisition des bâtiments. Ça veut dire les citoyens, les municipalités, des groupes communautaires peut-être, mais il faut qu'ils en fassent l'acquisition. Il faut qu'il y ait les reins assez solides pour l'entretenir eux aussi et l'utiliser aussi. Parce que on peut très bien trouver un beau clocher dans un village, et c'est vrai que c'est un symbole puissant, mais si ce monument-là est vide et inutilisé, ben c'est encore des frais qui vont être perdus. Là.
Je référais à l'incendie là, de l'église de Saint-Ours. Cette église-là était, comme bien d'autres, désertée par les fidèles. Il n'y a plus grand monde qui allait là. Comment expliquez-vous l'attachement d'une communauté pour une église qu'elle ne fréquente plus ou à peu près plus, parce que on entend et lit depuis l'incendie beaucoup de témoignages d'affection des Saint-Oursois pour leur église. Ils sont catastrophés qu'on ait jeté à terre les quatre murs encore debout. Comment vous expliquez ça? Ils n'y vont pas, mais ils y sont attachés.
Oui, le symbole ici au Québec est très, très fort du clocher dans le village. Mais comme communauté chrétienne, notre premier rôle, c'est pas d'entretenir des bâtiments, c'est d'annoncer le Christ. Et l'attachement... fort, il est fort, vous avez tout à fait raison. On l'entend partout, les gens sont attachés à ce symbole-là. Ensuite, il faudra voir, une fois que la communauté chrétienne dit à la population « nous ne pouvons plus », qui prend la relève maintenant? Bien là, ça sera aux gens à répondre.
est-ce qu'on est dû, M. Pelletier, au Québec, vous pensez, pour un sommet là, sur l'avenir de nos églises?
Ah, mon Dieu Seigneur, c'est une très, très bonne question. Il faudrait poser ça aux différents paliers de gouvernement et peut-être que la population serait intéressée à en parler. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une question d'argent qui est reliée à la sauvegarde du patrimoine.
Ah, vous parlez des différents paliers de gouvernement. J'allais justement aller là. Les municipalités, les MRC, les gouvernements du Québec et du Canada, est-ce qu'ils devraient bien plus avant s'impliquer dans la sauvegarde du patrimoine architectural et religieux?
Bien, il y a des municipalités qui prennent ça très, très à cœur. On le voit dans notre diocèse. Et il y a même des municipalités qui acceptent d'acquérir l'Église quand la communauté chrétienne frappe à leur porte. Il y en a d'autres qui se disent « Non, on n'a pas les reins financiers assez solides. » Il y a des populations aussi qui commencent à dire à leur maire ou à leur mairesse « On n'en veut pas, on veut pas que ça augmente nos taxes, ce poids-là immobilier en plus. » là. Alors, il y a vraiment, d'un village à l'autre, d'une situation à l'autre, c'est très, très varié.
C'est en géométrie variable. Là.
Oui, oui. Mmh. Après ça, il faudra poser la question au gouvernement. On sait que présentement, les enveloppes qui étaient prévues pour le
patrimoine religieux, là.
Le patrimoine religieux. Il y avait deux sortes d'enveloppes. Pour la requalification des bâtiments, ça s'adressait aux municipalités et aussi aux communautés chrétiennes. Pour l'instant, le gouvernement nous a annoncé que c'était sur pause. Est-ce que ça va être réactivé éventuellement?
Alors, c'est tout le contraire de s'impliquer plus avant pour la sauvegarde du patrimoine architectural religieux, ça, hein?
Pour l'instant, là, oui, c'est ça. On remet ça entre les mains des citoyens et des communautés chrétiennes.
Merci beaucoup, Serge Pelletier. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, Serge Pelletier, vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe. Ça veut dire le numéro 2 après l'évêque, là, pour résumer. Nous poursuivons cette émission portant sur l'avenir de nos églises en joignant à la Société historique Pierre de Sorel, celui qui en dirige les destinées, Geoffrey Shane Packwood. Bonjour, Geoffrey.
Bonjour, Sylvain.
J'aimerais d'abord ça t'entendre sur la richesse du patrimoine architectural religieux ici dans Pierre de Sorel. Les églises sur le territoire, elles ne sont pas d'égale valeur patrimoniale. Il y en a des plus vieilles, des moins vieilles, de plus grandes, de plus petites, à l'architecture complexe et moins complexe, aux intérieurs modestes et moins modestes. En termes de valeur patrimoniale, est-ce qu'il y en a certaines qui sortent particulièrement du lot?
Oui, ben là, en effet. Là. Après ça, ça reste subjectif parce qu'il y a des gens qui vont voir beaucoup de valeurs esthétiques et patrimoniales sur leur église, mais que finalement, quand il est catégorisé, ben elle est jugée avec une cote un peu moins élevée là. Mais quand on parle de ceux qui sont bien cotés puis qui ont une bonne vue, c'est sûr et certain que au-delà des églises catholiques, le bijou de la ville de Sorel-Tracy, c'est l'église Christ Church qui elle est catégorisée A. C'est la seule de la région qui était catégorisée A par sa valeur patrimoniale. Là, on parle bien sûr de l'architecture, mais on parle aussi de son histoire. Là, on parle d'une église qui date de 1842-1843. Mais après ça, il y en a d'autres sur le territoire. Si on reste à Sorel, bien sûr, il y a l'église Notre-Dame, qui est quand même une autre qui est bien catégorisée, qui est catégorisée B, si je ne me trompe pas, là, sa valeur exceptionnelle au niveau architectural, au niveau patrimonial. Et on sait bien sûr qu'elle est un peu malmenée. Depuis...
Ouais, ben justement, là, je voulais justement te parler de ça. Juste avant, l'église Saint-Pierre, elle se classe comment, elle?
Elle se classe comme C, si je me trompe pas. Mais c'est souvent, c'est l'architecture qui vient influencer. Ça reste quand même une vieille église. Donc, elle a quand même une bonne valeur, mais elle est classée C.
Je comprends. Bon, alors, j'arrive à Notre-Dame. Là. Les municipalités paraissent préférer se tenir loin du débat sur la sauvegarde des églises, voulant sans doute échapper au fardeau de les chauffer, de les entretenir, de les réparer. Sorel-Tracy est néanmoins bien propriétaire d'une église sur son territoire. L'église Notre-Dame, du Perpétuel Secours, rue du Prince. Comment tu trouves qu'elle s'acquitte de son rôle de propriétaire, bien ou mal? Fais-toi d'autres ennemis, là. Vas-y, go.
Le but n'est pas vraiment de se faire des ennemis. Ça fait 20 ans maintenant que la ville de Sorel-Tracy est propriétaire de l'église Notre-Dame. Ce qui est malheureux, c'est que ça passait d'une bonne intention. La ville voulait le préserver, l'a acquis. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui a suivi de ça après 2006. La pensée n'est pas allée plus loin de l'acquérir, parce qu'une fois acquis, ben, il faut la rénover, la restaurer et l'adapter.
Là, c'est peut-être pire que jamais. Il y a des clôtures devant le perron à l'avant. On ne peut plus y entrer.
Essentiellement, depuis les dernières années, il y a eu une volonté, il y a eu un rapport qui a été émis, un carnet de santé sur l'église qui a été fait en 2021, si je ne me trompe pas, qui a vraiment fait toutes les évaluations de ce qui était urgent et ce qui devait être fait sur un portrait d'à peu près 5 ans. Le problème, c'est que ça fait déjà 5 ans. Il y a des choses qui ont été faites, on est au courant, les choses qui sont plus urgentes. Le problème, par la suite, est arrivé des problématiques qu'il a fallu absolument restreindre l'accès, déménager Altigym qui occupait l'édifice. Donc, pour l'instant, c'est une coquille vide qui est là en attente d'eux. Et à ce qu'on sache aujourd'hui, ben la rénovation fait pas partie du PTI. Il n'y a pas de plan.
Je ne l'ai pas vu, moi, non plus passer. Comment s'assurer, Geoffrey, que ce patrimoine partout sur le territoire de Pierre-de-Sorel ne s'envole pas?
C'est un gros défi. Le problème, c'est que ça peut pas émaner seulement des municipalités. Il y a énormément de choses qui sont pelletées dans le cours des municipalités depuis les 10, 15, 20 dernières années. Il y a des nouveaux défis, puis il n'y a pas plus de sources de revenus. Là, ça reste les revenus de taxes, puis sinon des subventions ici et là qui viennent avec une charge très lourde en reddition. Le défi, c'est premièrement, c'est d'accepter qu'il n'y a pas tout qui va pouvoir être sauvé. Malheureusement, on a un patrimoine bâti au niveau religieux immense et pas tout va pouvoir être sauvé.
Donc, faut faire des choix.
Non. Il y a des choix, puis après ça, ben c'est le gouvernement provincial qu'il faut qu'il se mette la main à la pâte là-dessus. T'sais, on le voit là, justement,
Ton prédécesseur?
Mon prédécesseur là, en parlait, là, le programme de requalification. Des édifices à vocation religieuse qui a été coupé récemment pendant le moment où c'est qui était le plus utilisé. Il y a des coupures un peu partout qui font en sorte que les municipalités sont prises, là, surtout des plus petites municipalités qui n'ont pas nécessairement les reins financiers, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi ne permet pas aux municipalités de faire des déficits. Donc, automatiquement, s'ils empruntent de l'argent pour rénover quelque chose, la dette, les intérêts et le capital doivent être transposés sur le compte de taxes des citoyens.
Une dernière question très vite, on a peu de temps. Quand t'as vu, après l'incendie qui a dévasté l'église de Saint-Ours, ces 4 murs encore debout, jetés par terre, tu as réagi comment?
Ben, avec grande déception. C'est sûr et certain que tu sais, j'ai pas en main les rapports des experts de c'était quoi l'urgence.
C'est long d'habitude d'avoir un rapport d'ingénieur. Là, ils l'ont eu, là, je te dis, en cinquième vitesse.
Exactement, c'est ça qui a été surprenant. On avait un peu espoir, étant donné que les 4 murs tenaient, qu'il y aurait pu avoir un potentiel de faire autre chose, pas nécessairement de reconstruire ni de remettre un toit, mais ça aurait pu être un projet X plus semi-extérieur. Mais après ça, l'Église elle-même avait des problématiques avant de financement, puis de
voilà. Quel projet de la prévue. Il faut du fric.
Donc, ça reste un défi encore une fois. Là,
merci, Geoffrey Shane Packwood. Merci beaucoup.
Merci.
Salut, à la prochaine. Une pause après laquelle je parle au photographe Maurice Parent.
La santé mentale a mille et un visages. Trouver l'équilibre qui nous convient prend du temps et du courage. Chez Santé mentale Québec, Pierre de Sorel, on croit que c'est tous ensemble qu'on construit une société heureuse. Avec une variété de cours et d'activités, mais aussi des outils qui sont mis à la disposition de tous. Visitez la page Facebook Santé mentale Québec, Pierre de Sorel. Parce que 100% des gens ont une santé mentale. Comment va la tienne?
Salut, je m'appelle Jean-Pierre Gravel. J'ai fondé l'entreprise Département des moments parce que je pense qu'il est grand temps d'avoir une alternative aux funérailles traditionnelles. Des célébrations de vie sur mesure lumineuses et rassembleuses. Ça vous parle aussi? On est partout au Québec, départementdesmoments.com.
Ce mardi, dans Valérie l'après-midi, des moments touchants avec Jean-Pierre Gravel. On suit les traces du CH avec Richard Labbé, journaliste. Et ce sera la première d'une série de chroniques signées Santé mentale Québec, Pierre de Sorel. Valérie l'après-midi, dès 15h30.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
À l'émission aujourd'hui, la survie de nos églises, leur disparition est-elle écrite dans le ciel ou est-ce qu'elle pourrait l'ombre d'une planche de salut au bout du fil, le photographe Maurice Parent. Bonjour Maurice.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Ça va bien. Tu es l'auteur, Maurice, d'une fabuleuse incursion photographique au cœur de notre patrimoine religieux, nous proposant rien de moins là, avec ta technique de photo 360 degrés qu'une immersion au cœur de ce patrimoine. C'est un travail qui date de combien d'années, ça?
Et ça date. La première que j'ai faite, c'est justement, comme Geoffrey en parlait tantôt, l'église Notre-Dame à Sorel-Tracy. C'était à mes tout débuts de ma technique photographique en 360. Celle-là, je l'avais réalisée en 2009. Et par la suite, ben, je me suis intéressé parce que en imagerie panoramique, c'est des fois, c'est l'architecture, justement, qui nous intéresse. Et les églises, ben, c'est de l'architecture magnifique.
On y a notamment droit dans ce travail que tu as réalisé à la visite de l'église de Saint-Ours, une visite qui a, j'ai pas besoin de dire pourquoi, pris de la valeur depuis.
Ben oui, parce que je sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que je suis dépositaire à peu près des plus belles archives de nos églises de la région. Et Saint-Ours, ben, dans le projet que j'avais fait, parce que j'ai fait un gros projet avec la MSC sur tout notre patrimoine religieux de la région, et elle, je l'avais fait justement de la crypte au clocher. Alors, j'avais l'ensemble de tout l'édifice, aller jusqu'à le fameux ossature de bois qui soutenait le clocher quand ça s'est effondré. Et c'est des archives, je pense, de grande valeur aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça t'a fait, Maurice, de l'avoir incendié puis entièrement démoli l'église à Saint-Ours?
Incendié, mais je dirais un peu ce que c'était dit, act of God, là, ben, l'éclair qui a tombé sur
la foudre, ouais.
Et ça, c'est tout. Et, petite parenthèse, suite à ça, moi, j'avais fait remarquer au conseil municipal de Sorel-Tracy de notre fameuse église Notre-Dame. En 2009, j'avais constaté que les paratonnerres étaient défectueux. Et ils sont encore défectueux.
Pour Oh là là, ouais.
Et ça, je l'ai dit en assemblée de conseil, je ne sais pas, ça fait déjà un mois et demi, si justement, on n'a pas considéré ma réflexion pour dire, ben, faut la protéger, comme Geoffrey disait tantôt, c'est une église qui est classée B, et c'est vrai que Notre-Dame, c'est une église qui est magnifique. Alors, il ne faudrait pas qu'arrive la même chose qui est arrivée à Saint-Ours.
Alors, qu'est-ce que ça t'a fait, je reviens à ma question, qu'est-ce que ça t'a fait de l'avoir entièrement démoli, l'église de Saint-Ours, après l'incendie?
Qu'on l'ait démoli, j'en reviens pas encore. Moi, j'ai regardé toutes les images qui étaient publiées et tout, la structure extérieure qui était, à mon impression, à moi, solide. Oui, il aurait fallu consolider par l'intérieur, et on aurait pu faire quelque chose. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont manqué le bateau carrément de ne pas s'interposer à la démolition immédiate.
OK. Je veux dire à ce moment-ci de l'émission, parce qu'il y en a peut-être qui vont se poser la question, j'ai essayé de le joindre par tous les moyens qui existent, Messenger, téléphone, même, j'ai même écrit aussi à sa conjointe, le président du conseil de fabrique de Saint-Ours, et je n'ai eu aucune espèce de réponse ou d'accusé de réception. Bon, je referme ma parenthèse. Combien d'églises as-tu immortalisées, Maurice?
Bon, dans la région, j'y ai toutes, même l'église de Saint-Jérôme à Gela, juste avant qu'elle soit démolie, je l'ai fait. Toutes les églises qui sont debout encore dans notre région, je les ai toutes en images panoramiques avant leur conversion. La seule qui a été faite après sa conversion, c'est celle de Saint-Aimé-Massuville. Là, elle était vide, mais ça donnait quand même une autre couleur du lieu pour justement justifier que on peut faire autre chose avec ces monuments-là. Et une parenthèse aussi que je voudrais dire, parce que suite à la première intervention qu'il y a eu dans ton émission,
Monseigneur Jourdouin,
à propos de justement nos églises, l'évêque ou l'archevêque, je ne sais pas trop quoi.
L'évêque de Nicolet.
Il disait que, ouais, mais tu sais, chauffer une église, c'est dispendieux. Mais ça a un coût dans le plus tard. Parce que moi, j'ai remarqué quand j'ai fait justement ces réalisations-là, que quand on ne chauffe pas, on installe l'humidité dans ces lieux-là. L'humidité, ben, c'est la décrépitude de la peinture, de l'écaillement de tout le plâtre, parce que beaucoup de trucs à l'intérieur, c'est sculpté de plâtre.
Oui, il faut certainement un minimum de chauffage. Ben oui, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il a voulu dire. Je reviens à ta banque incroyable d'images. On peut la trouver où?
Ben, sur mon site, Maurice Parent, pas Maurice Parent, mais parmo.ca, il y a même une section dans la section panoramique sur notre patrimoine religieux d'ici et d'ailleurs. Toutes nos églises sont encore là. Et une technologie aussi qui a évolué. Et on peut les regarder avec des casques virtuels. Alors, on est comme dans l'église.
Wow! Les municipalités, les gouvernements régionaux, ça va être ma dernière question pour toi, Maurice. Les gouvernements du Québec et du Canada, est-ce qu'ils doivent s'impliquer dans la sauvegarde de ce patrimoine plus qu'ils ne le font?
Et oui, et de beaucoup, en passant par nos municipalités. Tu sais, tantôt, je parlais de chauffage, ben, défrayer les coûts, puis je suis certain qu'on peut avoir des commandites de nos entreprises qui ont à cœur notre patrimoine aussi, là. Et ensuite, ben, le gouvernement provincial, fédéral, ce sont nos monuments. En France, ils ont le château, ben, nous, on a nos églises.
Oui, ça, c'est Monseigneur Jourdouin disait exactement la même chose que toi tantôt. Merci beaucoup, Maurice Parent.
Ben, ça me fait plaisir, Sylvain.
Merci, Maurice. Il s'est investi avec d'autres dans la sauvegarde de l'église de Sainte-Victoire de Sorel. Il y est conseiller municipal. Je joins à la discussion Martin Cournoyer. Bonjour, Martin.
Salut, Sylvain. Ça va bien?
Ça va bien. La municipalité a acquis l'église paroissiale. Parle-moi du contexte. Est-ce que c'était pour le motif de ne pas la voir un jour disparaître, la fabrique étant à court de moyens?
Oui, surtout la fabrique, là, ils ont porté ça à bout de bras pendant des années, là. Ils l'ont entretenu, ils l'ont réparé la toiture, ils l'ont toujours bien entretenu l'église, qu'on s'est capable de l'acquérir, mais je pense que là, les finances, ils s'en venaient à bout de souffle. Là. Fait que il y a eu un move, on l'a acheté pour $1, symboliquement pour $1. Là.
Elle a été, Martin, transformée en salle multifonctionnelle sans que la vocation religieuse soit complètement évacuée. Hein. Il y a des cérémonies qui pourront encore s'y tenir.
Oui, il y a encore des cérémonies qui se tiennent aux 2 semaines ou 3 semaines. C'était le but de toute l'amalgame de tout ça, le côté religieux, le côté rencontre, de la convertir en salle et tout. Ici aussi, pour avoir droit aux subventions du patrimoine, là, il fallait garder une partie religieuse. Mais là, je pense qu'il y a une entente de 2 ans quand je vais avoir des messes à Sainte-Victoire.
OK. Bon, alors je reviens à la salle multifonctionnelle qui est devenue l'église, la victorienne, qu'on a appelée cette salle. Qu'est-ce qu'on y retrouve et qu'est-ce qu'on y fait?
OK. Premièrement, il va y avoir des salles de réception. Et au début, c'était pour le salon des aînés. On avait une subvention du fédéral de $25 000. Ensuite, il s'est ajouté l'arc-en-ciel qui sont rendus dans nos bureaux au presbytère et qui vont faire des dîners de l'amitié, des rencontres, toutes sortes de choses pour nos aînés et des poèmes les plus jeunes. Ils offrent des services de taxi pour les personnes plus âgées. L'arc-en-ciel était un atout là, afin qu'on accueille l'église parce que sinon, il fallait avoir des activités. Là, on a ajouté le côté culturel là, qui va avoir lieu dans l'église. On a la fameuse bibliothèque qui a toujours été depuis une vingtaine d'années, la bibliothèque Nicole Martel, qu'on payait un loyer. Là, présentement, vu qu'on a tiré l'église, le loyer, on ne le paye plus, fait qu'on va pouvoir payer le chauffeur qu'on entend parler depuis tantôt. Je pense que ça va être une rentabilité à long terme.
Bon, c'est une aventure, l'achat d'une église dans laquelle plein d'autres municipalités n'embarqueraient jamais. Sainte-Victoire, est-ce qu'elle est plus brave ou elle est plus téméraire que ces municipalités-là?
Ben, moi, vous dire, avec ce que j'ai entendu, je pense qu'on est plus brave, là. J'espère que le gouvernement ne retirera pas les subventions parce que ça prend beaucoup d'argent. Là. On a un cahier, nous autres, là, on a fait faire un cahier de charge, là, un cahier là, pour évaluer si l'église est encore en bonne santé. Il y a des petites choses qu'il faut faire pour améliorer, là, pour solidifier des choses. Mais si l'argent ne vient pas, c'est tout le nerf de la guerre, l'argent. Hein. On ne peut pas supporter ça tout seul avec les citoyens de Saint-Victoire. Là. Je pense que faut trouver des solutions, comme tout le monde a dit. Là. La solution, la vraie solution, je ne l'ai pas en tête. Je pense que l'argent, le fédéral, le provincial, même les gens de l'Église, les christianistes, ça va être bien qu'ils investissent, parce que ça va rester quand même un café d'Église. Là. C'est, on a beau les transformer, ça ne sera tout bien plus un lieu culte, mais ça va être encore le monde qui passe dans le village. Ils vont dire, regarde, ça, c'est l'Église. On ne se pas de café de... Le Vatican a de l'argent. Là. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça peut se rendre jusque-là pour mettre des sommes d'argent? Je cherche des solutions. Mais si jamais le gouvernement provincial débarque de ça, les citoyens de Saint-Victoire ne seront pas capables de probablement pas supporter. On n'a pas fait payer toutes les réparations qu'il y a à faire après l'Église.
Attends, je t'entends et toi tu es très... J'entends un gars extrêmement convaincu qu'il faut sauver les églises. Est-ce qu'elles ont une valeur patrimoniale qu'on sous-estime?
Oui, moi, c'est une valeur patrimoniale. Et aussi, faut plus oublier une chose, c'est nos ancêtres qui ont bâti ça. Mon grand-père, il y a des gens qui me disent, mon arrière-grand-père a été baptisé là. Mon arrière-grand-père a construit l'église. Puis c'est des modèles architecturaux incroyables, avec des moyens peu communs de bâtir ça. Ils ont fait des grandes choses. De là, tout est trouvé, là, c'est pas parce que là, on était chanceux, il n'y avait pas d'amiante dans l'église. Quand il y a de l'amiante, ça a l'air que c'est quasiment une cause perdue, qu'on se fait dire. Là. Mais nous, là, oui, ça a même une valeur sentimentale. Et le premier qui a parlé, M. Vaudoin, là, a enlevé l'église dans un cœur, dans le village, c'est le cœur qui part. Regardez Saint-Ours. J'ai regardé tous les commentaires sur Facebook. J'ai des jeunes qui étaient désolés de voir partir ça. Nous, on est braves. Je ne sais pas si on on n'a pas été visionnaire à long terme pour voir si ça va être un gouffre sans fond, mais j'espère que non. J'espère qu'on va les conserver. Parce que moi, on a un attachement à Saint-Victoire. C'est surtout l'attachement des gens là, qui sont nés à Saint-Victoire. Il y a une madame, elle me disait, moi, je me suis marié ici. Il dit, il faut pas que ça parte. Les commentaires sont plus négatifs que positifs. Fait que c'est pour ça qu'on était de l'avant.
Merci beaucoup, Martin. Oh. Merci, Martin Cournoyer. Merci. Martin Cournoyer, conseiller municipal à Sainte-Victoire de Sorel. Yvon Bruneau déploie avec d'autres bien de l'énergie et du talent à faire connaître son église de Saint-Roch-de-Richelieu et à procurer la fabrique des fonds pour s'assurer qu'on la chauffe et l'entretienne. Bonjour, Yvon.
Bonjour, Sylvain.
Où trouves-tu ta motivation, dis-moi, Yvon, te sens-tu investi d'une mission divine, toi, là, ou est-ce que c'est la sauvegarde d'un élément sacré du patrimoine rochois qui t'anime?
Oui, c'est... moi, je viens pas de Saint-Roch, je viens de Longueuil, mais par contre... depuis qu'on est installé ici, depuis les années 80, qu'on a commencé à s'installer à Saint-Roch, il y a plusieurs choses que j'ai connues. Et puis, je me suis investi, ça fait déjà plusieurs années. Mon épouse aussi, Liliane, s'est investie au conseil de fabrique. Et puis, on a toujours encouragé les gens... plus démunis, des gens aussi à faire partie de notre conseil de fabrique en lui montrant notre enthousiasme, si vous voulez.
Oui, vous donnez chaque année, pour lever des fonds, une foule de rendez-vous à la population, des concerts, des conférences, des visites guidées.
Oui, mais tout l'été, on a un guide à l'église pour permettre la visite de l'église qui est subventionnée par les emplois étudiants, là. Et puis, on organise, entre autres, la criée, qui est un encan après la messe, là, à l'automne, là, au mois d'octobre, 5 octobre, je viens de dire, là, après la messe de 9h30, où il y a des produits du terroir qui sont vendus, et puis des dons qui sont vendus à l'encan. Et puis, c'est une levée de fonds qui est appréciée. Aussi, on a toujours notre concert de Noël à tous les ans, là, depuis à peu près 3-4 ans, là, 4 ans, là, peut-être même 5 ans. Là, on a des artistes, c'est pas donné, mais par contre, ça vaut la peine. C'est des très beaux concerts qu'on offre aux gens là, de la municipalité et aussi aux gens de l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui viennent nous visiter pour ces concerts-là.
Je ne sais pas si ce sont des chiffres que tu as en tête, Yvon, ne serait-ce qu'approximativement, mais combien ça coûte seulement à chauffer l'église?
Oui, mais si on regarde, là, pour chauffer l'église, là, c'est budgété au mois. Nous, avec Hydro-Québec, là, c'est environ 13 à 1400 $ par mois. Et puis le gros poste budgétaire aussi qui est très dispendieux, c'est les assurances aussi, responsabilité et assurance. Là, c'est un autre 1200 $ par mois. Fait que juste ces deux postes budgétaires-là, c'est au-dessus de 2500 fait que, par mois, ça, hein, on ne dit pas par année, là, on dit ça par mois. Fait que c'est immense, là, c'est des gros défis à relever. Et c'est pour ça qu'on exploite aussi avec toujours du bénévolat dans toutes les activités qui sont à notre église. Il n'y a personne qui est salarié là.
Mm-hmm. Elle a été construite en quelle année, l'église de Saint-Roch-de-Richelieu?
1859.
Quand même! Ça fait un bout.
Et puis le cimetière, la première inhumation, 1860, une dame d'ici de Saint-Roch. Et puis si on regarde... on a un cimetière qui est à moitié exploité, on a une grande superficie, et puis il est très bien entretenu, on a un contracteur qui fait de la belle ouvrage.
L'église, je reviens à l'église, Yvon, elle renferme des richesses, l'église de Saint-Roch?
Architecturale, oui, elle a des richesses, parce que si on fait la visite, la dernière année, la dernière restauration générale à l'intérieur date des années 80, qui avait été peinte au complet. Aujourd'hui, elle est encore très belle. Il n'y a pas d'infiltration d'eau. On a une bonne couverture qui avait été refaite. La couverture est très belle. On a un orgue Louis Michel qui date d'avant les frères Casavin, dont les frères Casavin ont acheté le brevet de Louis Michel à sa retraite. Là. Elle a été restaurée par Patrimoine Canada. Elle joue très bien, toute beauté.
Est-ce que tu crois que l'incendie qui a dévasté l'église de Saint-Ours, juste de l'autre côté de la rivière, a fait mieux prendre conscience aux Rochechouart de la chance qu'ils ont, que se dresse toujours au cœur de leur village, cette belle église?
Oui, je crois que il y a plusieurs grandes familles ici à Saint-Roch là, qui existent toujours, là, qui datent de la fondation de l'église, et puis je ne veux pas nommer de nom, là, mais qui sont toujours des descendants vivants, et puis sont toujours des descendants de ces familles-là, et puis il y a des visites annuelles d'organiser justement pour ça, pour la visite au cimetière après la messe, et puis il y a des gens qui sont encore intéressés de maintenir le patrimoine de cette belle bâtisse-là.
Yvon, je dois déjà te remercier, c'est tout le temps que nous avons. Bravo pour ton dévouement à la fabrique de Saint-Roch-de-Richelieu. Et salutations à ton épouse. Merci.
Je voudrais remercier tous nos bénévoles.
C'est gentil. Merci, Yvon. Merci. Yvon Bruno de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu. Après la pause, Lisanne Croteau et Monseigneur Yves Sanson.
La chronique d'Azimut Diffusion, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec Juliane, Cathy, Laurence ou Lauriane, les mercredis à 8h15 à CJSO 101.7. Chaque semaine, on vous parle des spectacles à venir au Marché des arts des Jardins, en chansons, humour, musique, théâtre, danse, jeune public, art de la parole, en plus de vous faire découvrir notre métier de diffuseur. Soyez à l'écoute pendant l'émission Yatsé Matin, animée par Alex Trudel, pour tout connaître d'Azimut Diffusion.
En septembre, chez Meubles André Beaulieu, préparez-vous à accueillir l'automne en mode cocooning. Profitez de 20% de rabais sur nos matelas. Et ce n'est pas tout, découvrez aussi de belles promotions sur nos meubles de salon et de cuisine, parfaits pour préparer la saison où l'on aime recevoir. Sans oublier les têtes électriques Fornirama à moitié prix sur lesquelles vous vous reposerez une fois la visite partie.
Meubles André Beaulieu, votre destination confort cet automne.
La chronique Bienvenue chez nous à Contrecœur vous est présentée ce mercredi à 10h15 et 15h30. Apprenez-en plus sur les activités de la ville de Contrecœur et sur les services offerts. Cette chronique est une présentation de la ville de Contrecœur.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Comment conserver nos églises, des pièces centrales de notre patrimoine architectural dont chaque clocher annonce un village? Je joins quelqu'une qui a peut-être des pistes. Elle est directrice générale du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Bonjour, Lisanne Croteau.
Bonjour, M. Rochant.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous accompagnez au pôle d'entrepreneuriat collectif, Mme Croteau, les communautés et ou les groupes promoteurs qui souhaitent développer des entreprises d'économie sociale. Commencez-donc, avant que je nous amène dans le vif du sujet, à définir ce que sont des entreprises d'économie sociale.
Des entreprises d'économie sociale, en fait, ce sont des OBNL qui ont un volet marchand ou des coopératives généralement. Donc, ce sont de réelles entreprises, mais qui ont une mission sociale à laquelle ils répondent. Donc, comme un balancier entre les deux volets.
J'arrive à ce qui nous intéresse particulièrement ce midi. Vous avez mené une cohorte spécifique sur le patrimoine bâti à laquelle 5 projets de revitalisation d'églises ont participé?
Absolument. Bien, on le sait, là, c'est un enjeu national. Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? Donc, on avait des appels de certaines municipalités, des communautés qui voulaient reprendre les églises. On ne savait pas nécessairement comment bien les accompagner. Nous, on fait de l'accompagnement justement pour l'idéation et le développement de projets d'économie sociale. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire une cohorte qui va permettre d'accompagner ces projets-là. Donc, de prime abord, on organise ce que nous, on appelle un révélateur, c'est-à-dire qu'on regroupe, par exemple, dans ce cas précis-là, les fabriques, les municipalités, les gens de la communauté, pour qu'ils puissent discuter ensemble puis réfléchir quel type de projet on pourrait développer, justement, sur leur territoire.
Donnez-moi, en partant de ces projets, une idée de ce qu'une église peut devenir.
Ben, il y en a plein de projets à travers le Québec. C'est ça qui est génial. Puis, on peut jouer avec ces modèles d'affaires-là selon les enjeux, justement, des territoires. Par exemple, dans un format économie sociale, il y a une maison des générations qui a été créée. Rallier justement toutes les générations avec des cuisines justement qui sont sur place à travers la nourriture pour rallier les gens. Tantôt, on a parlé justement d'une mixité un peu de l'offre à travers les églises. Il y en a qui ont des bibliothèques, une petite épicerie, des centres d'escalade aussi. On a des CPE aussi qui ont été inclus à travers les églises. Et puis, il y a aussi le Chic Resto Pop aussi qu'on connaît à Montréal, qui a été développé aussi dans un bâtiment patrimonial.
Donc, alors, plein d'idées. Est-il assez fréquent qu'il s'agisse de grands projets qui s'échelonneront sur plusieurs années?
C'est toujours long, on ne se le cassera pas, puis c'est là qui est un peu l'enjeu, de réussir à garder mobilisé justement le groupe promoteur à travers ces étapes-là. Puis je pense que c'est là que le pôle venait jouer un rôle central et important dans les projets. Nous, on s'entend, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a fait notre incubateur, donc les projets sont encore dans la phase expérimentation un peu justement de ce modèle d'affaires-là, mais les études nous montrent que pour un projet collectif, c'est minimalement 5 ans là, avant de se dire qu'on peut vraiment lancer bien le projet. Là.
Cette cohorte de 5 projets, elle a mené chez vous à la naissance d'une communauté de pratique.
Oui, parce que je dis justement, ça s'échelonne sur longtemps, puis plus qu'on se met le bras dans l'engrenage qu'on est en train de développer le projet, plus qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux auxquels on doit répondre, puis qu'on ne sait pas nécessairement... nous, sans avoir d'expertise, c'est pour les groupes promoteurs, justement, à revitaliser une église. Donc, le fait qu'on puisse les accompagner, les rallier, qu'ils puissent discuter ensemble justement des enjeux qu'ils vivent et qu'on invite aussi des experts spécifiques, entre autres, mettons, sur la loi canonique. On a besoin d'experts précis pour venir justement expliquer ces choses-là et de quelle façon ils doivent réussir à répondre à ces enjeux-là pour les guider et les soutenir.
Il y a peut-être des groupes, des municipalités qui vont dire « on a besoin d'elle ». Est-ce qu'on vous trouve, comment on vous trouve? On vous trouve sur le web, le pôle d'entrepreneurs collectif de l'Est de la Montérégie?
Oui, psm.ca. Donc, nous, on peut justement, tu sais, on invite les municipalités, justement, si c'est pas déjà fait, à entrer en contact avec les fabriques des églises que sur leur territoire, parce que, justement, les projets sont longs à mettre sur place et d'avoir le reflet collectif pour bien répondre à l'enjeu. On le voit depuis tantôt, il y a vraiment un aspect émotif d'église. On veut garder ces cœurs de village-là. Donc, il faut réussir à bien placer les pions pour réussir à bâtir quelque chose qui va avoir du sens puis que ce soit vraiment un levier pour dynamiser aussi les communautés.
Merci mille fois, Lisanne Croteau.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci. On l'a connu dans le cadre de l'exercice de son ministère à la Christ Church de Sorel. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir évêque co-adjuteur de l'Église chrétienne catholique traditionnelle. Yves Sanson est avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien. Est-ce que c'est manqué à l'étiquette de ne pas t'appeler Monseigneur Sanson? Comment je dois t'appeler là?
Le plus beau nom que j'ai reçu un jour dans ma vie, c'est le plus beau prénom, c'est Yves. C'est mon nom de baptême, alors c'est le plus précieux.
Parfait. Je rappelais ton ministère ici, oui, à la Christ Church de Sorel. Voilà une église pour la conservation de laquelle il y a eu une mobilisation populaire, une levée de fonds populaire, en plus d'une aide financière de Québec, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Ce qu'il faut toujours retenir dans le sujet qui nous intéresse, puis on se parle après cette fin de semaine où on mettait en valeur le patrimoine religieux au Québec, c'est d'abord de se demander, en face de ce patrimoine-là, quelle est l'attitude de la communauté face à ce patrimoine bâti? Est-ce que ça a un intérêt pour nous, oui ou non? Et autant pour la communauté de la population où est implanté l'édifice en question que pour les autorités religieuses. Parce que moi, quand j'ai fait mon cours en théologie à l'Université Laval avec professeur Laurier Turgeon, j'ai fait un cours sur le patrimoine et professeur Turgeon nous disait « Le problème, c'est que souvent, les gens qui sont propriétaires de ce patrimoine bâti-là ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. » Et ça, c'est une partie du problème. L'autre partie, c'est souvent quand on parle de patrimoine, on va parler de valeur patrimoniale. Or, il faut savoir dans quel sens on utilise le mot valeur. Est-ce que c'est une valeur dans le sens d'être capable d'estimer quelque chose qui va entrer dans l'ordre d'une transaction, quelque chose qu'on va vendre et qui va rapporter en espèces trébuchantes et sonnantes? Ou si c'est le mot valeur dans le sens que ça occupe une place tellement importante qu'on ne veut pas perdre ça? Parce que l'église Christ Church et son presbytère à côté, quand vous passez au centre-ville de Sorel, c'est pas des bâtiments les plus flamboyants. Quand vous entrez à l'intérieur de l'église, c'est pas là qu'on retrouve les plus grandes fresques non plus. Mais à cause du fait que la paroisse est installée depuis 1784, elle a de la valeur pour la région de Sorel. Alors comment on fait pour conserver, préserver ce patrimoine-là et ensuite le mettre en valeur? Alors, bon, c'est les trois étapes qu'il faut habituellement franchir.
Oui, bravo pour la Christ Church, encore une fois, mais combien, pour une église sauvée, y a-t-il eu d'églises démolies? Est-ce que c'est une fatalité que leur disparition, qu'on ne les fréquente plus, est-ce que ça a signé leur arrêt de mort?
Ben, je pense que ça avait déjà commencé depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mobiliser une réflexion majeure pour se demander collectivement qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, quand je me suis intéressé au patrimoine, c'était pendant mon bac en théologie à l'Université Laval, dans les années 2000, jamais personne ne m'avait parlé de patrimoine religieux au Québec. Hein, on connaissait les églises, mais quand on entre à l'intérieur et qu'on commence à découvrir qu'est-ce qui s'y trouve, oui, c'est un lieu cultuel, mais c'est aussi un lieu hautement culturel, hein, par les fresques, par les peintures, par les instruments qui se trouvent à l'intérieur. Et personne ne nous parle vraiment de ça.
Hein? Nous sommes dus, Yves, tu penses, pour un grand forum sur l'avenir de nos églises au Québec?
Ben sur oui, sur l'avenir. Puis, tu sais, enlevons peut-être le mot église qui peut faire peur à des gens, mais parlons de patrimoine bâti, parce que on va visiter des ruines dans d'autres pays qu'on trouve merveilleuses. Moi, je vous garantis, prenez les ruines de l'Acropole, transportez ça chez nous, 6 mois après, on le fait disparaître. Parce que c'est vieux, puis on n'aime pas ça, puis il faut qu'on passe à autre chose. Mais je pense que si on suscitait une réflexion générale, globale, puis qu'on puisse aussi prendre le temps de faire l'inventaire de qu'est-ce qui est véritablement patrimonial, de ce qui ne l'est pas et pour quelles raisons, je pense que la collectivité québécoise y gagnerait au complet.
Nos gouvernements québécois, canadiens, municipaux, est-ce que tu estimes qu'ils doivent plus avant s'impliquer? On sent une frilosité, peut-être un désir de cohérence avec le principe de laïcité de l'État.
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une laïcité ouverte. On ne fera pas le débat là-dessus, mais c'est parce que ces bâtiments-là témoignent de notre histoire, alors qu'on le veuille ou non. Puis là, on parle évidemment majoritairement d'églises catholiques romaines au Québec, mais vous avez des petites églises anglicanes, des églises méthodistes, des églises luthériennes. Vous vous promenez en campagne, il y a une multitude de petites églises, de d'autres traditions religieuses qu'il faut apprendre à découvrir. Le problème, c'est qu'on ne nous en parle pas. On n'enseigne pas aux jeunes qu'est-ce qui était à l'origine de la construction de ces édifices-là. Qui a entendu parler du statuaire de Petrucci et Carli, qui faisait des statues qu'on trouve à l'intérieur de nos églises? Il y a plein de choses qu'on pourrait permettre aux gens de découvrir et d'apprendre ici. Et si on sait ce qui se trouve chez nous, bien peut-être qu'on aura un intérêt à essayer de le conserver et à participer à sa mise en valeur.
Une dernière question, puis tu auras juste 30 secondes pour y répondre. Tu vas trouver que c'est vraiment peu. Comment personnellement, la vis-tu la disparition des églises? Comment intérieurement la vis-tu?
Ben, c'est triste parce que c'est des pans complets de notre passé qui disparaît. C'est notre histoire qui est en train de nous échapper. Et comme je te disais tantôt, on va dans d'autres pays, on visite de vieux bâtiments, on trouve ça beau. On a des choses chez nous qu'on pourrait préserver pour les léguer à la génération suivante. Malheureusement, on fait tout disparaître.
Merci beaucoup, Yves. Merci, Monseigneur Samson. Merci à l'ensemble de mes invités, de même qu'à Laurent Cournoyer au standard téléphonique. On se retrouve mardi prochain pour une autre tribune.